Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de
France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont, envie ce, qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur Langue de Fronde.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau des Langues de Fronde sur 106.3 FM. Aujourd'hui, on a à la technique Mirko et Astrid.
Salut.
Coucou. On a Asia.
Salut.
Et on a Joser.
Salut.
Et on a moi, Isée. Et chez moi, sur le mur de mon appartement, il y a une affiche avec une tortue. Et sur son dos, il y a marqué « lutte » et elle mange un truc, une sorte de petit bout de salade, sur lequel il y a marqué « utopie ». Alors c'est l'affiche d'un festival intergalactique de l'image alternative de Brest, mais ça à la limite, on s'en fout pour le cas qui nous occupe aujourd'hui. Mais elle est jolie et je l'aimais bien. Et puis je l'aimais bien parce que je trouvais ça chouette de me dire que les luttes se nourrissaient des utopies, que les luttes sans se demander où est-ce qu'on va, ça sert un peu à rien, etc. Et que si on se demande pas ce que c'est la suite, les luttes sont toutes vides. Et un jour, quelqu'un est venu chez moi et il a regardé cette tortue et il m'a dit « Mais la tortue des luttes, elle, peut-être qu'elle grandit avec tes utopies, mais elle, en mangeant, elle les détruit et elle les bouffe parce que les utopies, c'est naze, parce que seul le réel compte et seule la lutte compte et seules les pratiques réelles comptent et la fiction, ça ne fait que faire des imaginaires qui ne servent à rien. » Donc le problème de cette tortue qui en fait a deux sens, c'est un peu le problème dont on voudrait parler aujourd'hui, celle des utopies féministes, des fictions, des sociétés alternatives féministes et de la question du réel contre l'imaginaire avec cette idée qu'il y aurait celle qui rêvasse et celle qui pratique.
Pour militer, il faut se donner de l'air et se donner des idées. Quels sont les récits qui nous font imaginer une autre société? Lesquels nous font kiffer et nous donnent de la force? Et lesquels, au contraire, nous plombent ou nous empêchent de nous projeter? Est-ce que ces fictions donnent de la force dans le réel ou est-ce qu'elles nous empêchent de le voir, ce réel? Et est-ce qu'il faut que ces fictions soient réalistes?
A priori, si on est féministe, militante féministe, si on passe nos journées le nez dans des récits de survivantes de violences masculines, de décomptes de féminicides politiques, dans le décortiquage des mille formes que prend l'oppression des femmes par les hommes, c'est parce qu'on pense qu'il y a mieux. Qu'il y a mieux ailleurs ou plus tard ou autrement. Mais ce serait quoi ce mieux? Comment on se l'imagine, on se le dessine? Quel récit nous l'alimente?
Et alors du coup, on a pensé que les utopies et les fictions féministes, c'était une bonne manière de se demander c'était quoi ce mieux, qu'en fait il y avait probablement une pelletée d'écrivaines qui avaient réfléchi à tout ça. Et alors, premier constat qu'on peut faire collectivement après avoir fait des recherches pour cette émission, parce qu'on est sérieuse, c'est qu'il n'y en a pas des masses des utopies féministes, il n'y en a pas 10 000. Et il y a une chercheuse qui s'appelle Aurore Turbiot et qui est docteur en littérature comparée, dont je vais vous lire quelques lignes, qui nous donne une piste d'explication et qui raconte un peu l'histoire des utopies féministes et qui nous donne une piste d'explication de pourquoi on n'en a pas trouvé 30 000. Donc ce qu'elle dit dans une interview dans la revue La Déferlante de novembre 2023, c'est le numéro 12, c'est que l'utopie, comme genre littéraire, est très genrée au masculin, et tournée vers un registre public et politique, avec une description des modes d'organisation du pouvoir dont les femmes, dans l'histoire réelle, ont été écartées durant des siècles. Les utopies féminines sont donc rares jusqu'à la fin des années 60, à quelques exceptions près, comme « La cité des dames » de Christine de Pizan, qui date de 1405, ou « Erland » en 1915 de la romancière suffragiste états-unienne Charlotte Perkins Gilman. Cette dernière décrit un monde entouré de montagnes dans lequel les femmes vivent en symbiose avec la nature et se reproduisent sans hommes, disparus depuis des siècles. Ce que montre Angelica Bammer. Ça, j'avoue, je ne sais pas qui c'est pas précisé. Je sais pas. C'est que ce sont des utopies un peu conservatrices et essentialistes, où les fonctions féminines sont ramenées au biologique, au care et à la reproduction. Mais ça se comprend, en 1405, tout comme 500 ans plus tard, les écrivaines ne pouvaient pas être sur tous les fronts. C'est à partir des années 70 que les autrices s'emparent du genre, cette fois pour en changer les règles. Et ensuite, elles donnent différents exemples, Archaos ou le jardin étincelant, les bergères de l'apocalypse, etc. Où le genre utopique féministe se rapproche plutôt de l'imaginaire de la science-fiction et du monde de la science-fiction, quoi. Donc, puisque l'utopie, c'est repenser les modes de pouvoir, c'est assez logique que les personnes qui n'ont pas le pouvoir spécifiquement soient pas celles qui aient produit ces récits-là et que du coup, il y ait peu de récits de sociétés utopiques féministes. Il y en a quand même quelques-unes, pas forcément surexcitantes aussi.
Des premiers trucs qu'on a cherché, en fait, moi, toute seule, en y réfléchissant, déjà, j'avais peu d'idées qui me venaient sur des utopies féministes ou féminines même. Et les peu qu'on a trouvées, on s'est un peu regardé en se disant « Putain, ça vole pas haut, quoi. » Et c'était, je crois, Thelma et Louise, la première où on s'est dit « Merde. »
Du coup, le film Road Movie qui raconte
l'émancipation de deux femmes, l'une qui est dans un mariage assez rétrograde et l'autre qui est une travailleuse très précaire, si je me souviens bien, mais dont on ne se rappelle que de Brad Pitt à poil, je crois. Donc, je sais pas si c'est très intéressant comme film. Enfin, c'est pas vraiment une utopie féministe, quoi. Et après, non, les autres auxquels on a pensé, c'est La Servante Écarlate. On a pensé à.
Non, mais du coup, qui sont des dystopies.
Qui sont des dystopies. Ouais, voilà. En fait, on n'arrivait pas vraiment à se trouver un exemple parlant et qui nous plaisait en plus. Donc. On est vite tourné en rond, quoi.
Bah, en plus, c'est marrant que genre, si tu tapes utopie féministe et que tu tombes sur Thelma et Louise, moi, je m'en souviens quand même, c'est super, c'est marrant et tout, mais c'est deux femmes qui prennent la voiture et qui roulent. Et en fait, c'est sympa, mais je pense qu'on peut rêver plus fou.
Spoiler, elle se suicide à la fin, non ? Enfin, c'est pas, voilà. Pas top, quoi.
Donc, je sais pas.
Ouais, pardon. Mais...
Donc, on fait mieux comme ailleurs en chanteur, quoi. C'est sympa de rouler sur l'autoroute, mais c'est pas bon pour l'écologie.
Et après, du coup, une autre catégorie qui nous est venue, c'était un peu dans le type de récit de vengeance, mais du coup, qui était notamment pas forcément pensé par des femmes et encore moins des personnes féministes, notamment Tarantino, qui revient souvent avec des récits de violence, de vengeance et de violence, type Kill Bill. Le boulevard de la mort, où c'est du coup a priori des figures de femmes fortes dans le sens un peu badass, etc., mais du coup ultra déjà sexualisées, avec un male gaze quand même omniprésent et du coup qui les outils dont elle se sert pour arriver à ses fins et avoir sa vengeance et du coup ça établir sa forme de justice, c'est des outils hyper masculin dans le sens hyper violent et très problématique sous plein d'aspects. Et encore une fois, la question de est-ce que c'est ça qui représente nos rêves féministes ? J'avais l'impression qu'on s'était pas trop retrouvé dans cette...
On va trouver mieux, mais on a une heure pour trouver mieux. Voilà. C'est la mission qu'on s'est fixée aujourd'hui. Alors quand même un peu mieux, mais parce que déjà pas réalisé par Tarantino, mais il y a un livre de fiction qui est un récit de vengeance et de violence sur ce thème-là, de la vengeance contre son agresseur, etc., et qui n'est pas réalisé par un psychopathe misogyne, qui s'appelle Les Orageuses, qui est un livre sorti dans la collection Sorcières de Cambourakis, et écrit par Marcia Burnier, et qui raconte un gang de filles qui décident un jour de commencer à rendre justice elles-mêmes contre leurs agresseurs et leurs violeurs en les terrorisant, donc en faisant des espèces de descentes chez eux pour... dans mes souvenirs, je crois pas qu'elle les tue, mais c'est vraiment juste de les terroriser, de leur faire vivre une violence psychologique très forte pour les marquer, pour leur rendre la monnaie de leur pièce.
Puis il y a vraiment le côté bande aussi, elles s'organisent ensemble,
ça s'appelle les méduses ou les trucs comme ça. Et pour le coup, c'est mieux et plus émancipateur que Tarantino. On est deux à l'avoir lu. Il y a un truc qui est, c'est un peu écrit sur le mode. C'est ça le bon féminisme, quoi. Et donc quand tu le lis et que ta journée n'est pas dédiée à genre tatouer au fer rouge des hommes en faisant des descentes chez eux avec des battes de baseball, tu lis le livre en disant tiens, je suis pas une bonne féministe.
En fait.
Alors que bon, peut-être qu'il y a d'autres, qu'il faut tout pour faire un monde, quoi. Donc il y avait un peu cette limite là. Et qu'est-ce qu'on s'était dit d'autre qui n'était pas...
Ouais, que ça ressemblait quand même... Enfin, c'est un bouquin que je crois qui raconte l'histoire de femmes urbaines, qui, je crois qu'on s'était dit, soit dans le 18e, soit dans le 20e à Paris, donc un milieu qui n'était pas vraiment imaginaire ou complètement
fou pour...
pas pour nous, en tout cas,
c'est
voilà, pas
pour
nous, clairement. Ouais, c'est pas des paysans, donc moins une utopie qu'un... Enfin, en fait, que plutôt limite un récit d'une bande de militantes qui défonce tout, quoi.
Mais il y a quand même ce truc un peu libérateur. Genre, les scènes de terreur, elles peuvent être aussi, quand tu les lis...
Ouais, mais c'est aussi le même truc de reprendre les codes de la violence pour... Enfin, tu vois, la vengeance n'a lieu que par un truc de violence physique. Mm. Parce que c'est physique, en fait. C'est pas... Ça pourrait être de la violence psychologique et harcèlement moral, finalement. Ben oui. Voilà. Mais en fait, non.
Tout est possible. Alors, vraiment de l'autre côté du spectre des utopies féministes, pour le coup, pas du tout tarantinesque. Moi, je me suis souvenue qu'il y a un moment, mais il y avait une... À l'époque où j'étais encore une bébé féministe et que je suivais un peu du féminisme libéral un peu naze, c'est ce que j'ai démarré par là, en 2019, donc, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, mais il y avait cette newsletter de féministes libérales qui s'appelait Les Glorieuses et qui était un peu, genre, il y avait des trucs cool, mais c'était quand même un peu, genre, empowerez-vous et montez votre entreprise, etc. Et elles ont fait faire pendant...
ce que tu as fait.
J'ai échoué à la deuxième étape, mais bon, je suis restée bloquée sur la première. Et elles ont demandé à des autrices ou des militantes d'écrire des utopies féministes pendant un été, mais des utopies réalistes, en leur demandant de rester très proche du réel et tout. Et du coup, alors il y a des trucs assez marrants, il y en avait 8. Je vous en lis quelques-unes. Moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper satisfaisant, mais vous allez me dire. Ce qui donne déjà quelques premières idées d'utopie réaliste. Alors la première, c'était « Une révolution sexuelle a rendu les cours d'éducation sexuelle obligatoires dans les écoles. » Donc, apprentissage du consentement et du respect. Voilà, comment 20 ans plus tard, tout a changé. Et la conclusion, c'est du coup, les relations hétéros sont beaucoup plus sympas, quoi. Beaucoup plus agréables. Ensuite, il y a un monde qui aurait connu une véritable révolution judaïque et où il y a un mouvement des femmes interdites de divorce par la religion juive qui s'appelle des Aguna, qui sont les femmes enchaînées à leur mari et qui se s'organisent collectivement et qui se révoltent. Voilà. Il y a un monde dans lequel on aurait aboli les inégalités de genre grâce à la suppression des cheveux. Alors malheureusement, j'ai pas retrouvé celui-là, donc j'ai pas pu le relire.
La suppression des cheveux, genre on serait tous chauves.
Ouais.
Et ça permettrait de...
Bah du coup, de plus être assigné à un genre via tes cheveux,
okay.
À moins passer de temps à les entretenir. Je vous renvoie à ce propos à notre émission sur les cheveux, qui probablement explique ce mystère.
Si je peux me permettre, ce qui est très drôle, c'est que la semaine dernière, du coup, c'était le propos dans la chronique « Questions des auditeurs » de Emmanuel Barré. Non, dans la dernière de Nova, c'est un de ces utopies justement sur Saint-Roustan, c'est que justement pour abolir toutes les inégalités, il y a une espèce de montée en absurdité sur le maire qui a voulu abolir les inégalités de genre à l'université. Et un des trucs justement, c'est pour ne pas distraire, donc toutes les femmes, pour leur émancipation, toutes les femmes seront donc tendues. Et à la fin, il y a une montée en absurdité où du coup, pour abolir vraiment toutes, pour protéger les femmes et pour favoriser leur émancipation, elles sont interdites d'université juste pour pas brouiller les pistes. Mais du coup,
ouais.
Voilà.
Bah, c'est un imaginaire.
Pierre-Emmanuel Barré, c'est ça son...
Donc voilà, il y en a quelques-unes d'autres. Il y en a une qui est plus classique, qui, en gros, il y a une évolution écologique de la société, où il y a eu du coup un effondrement de la finance, donc le développement de l'agriculture urbaine, donc des collectifs de vie et la préservation des graines paysannes et de la permaculture. Et donc, maintenant, la société est fondée sur le soin et l'empathie. Il y a Une autre qui raconte en gros un groupe de meufs féministes qui sont un peu à bout et qui décident de passer à la lutte armée et donc de faire un attentat terroriste. Mais juste avant l'attentat, la terroriste qui a sa bombe sur elle s'assied à une terrasse pour genre boire un sirop pour respirer un peu avant de faire son truc. Et elle voit en face d'elle, c'est vrai, je vous jure que j'invente rien, une fille qui lit un livre de Gloria Steinem où Gloria Steinem fait un sourire sur la couverture. Et donc elle voit Gloria Steinem lui sourire. Et elle l'entend lui dire « Non, chérie, la fin ne justifie pas les moyens. » Et donc, elle annule l'attentat.
J'adore.
Voilà.
C'est top. Ouais. Franchement, ça fait vraiment réfléchir.
Et ensuite, il y en avait une sur l'élection présidentielle d'une femme féministe où, du coup, le lendemain, une réunion de crise a lieu dirigée par le directeur central de la sécurité publique. Des dizaines et des centaines de milliers de femmes se sont rendues dans les commissariats pour dénoncer leurs agresseurs. Et donc, comment on fait pour sanctionner autant de monde ? C'est-à-dire, en fait, la fin de l'impunité a été décrétée, mais matériellement, on a un problème de comment est-ce qu'on sanctionne tout ça, et donc se met en place un système de justice traditionnelle, création d'une commission nationale de vérité, etc. Donc ça, c'est genre 8 exemples d'utopie féministe qui ont été proposés par des militantes et des autrices. Il y a quelqu'un qui s'appelle Adorno, qui n'est pas probablement féministe, mais qui a dit « Dès qu'un idéal se concrétise, la déception suit immédiatement. » Et je trouve que là, on est un peu dedans. C'est-à-dire que dès que l'utopie est réaliste, ça ne fait pas tant rêver, quoi. Ce n'est pas si sexy des commissions nationales et des... C'est pas si fou, non ? Il y en a une qui vous a plu ?
Moi, j'avoue que j'ai un peu une réaction inverse. Qu'il y en a... Enfin, celles qui sont les plus vagues sont les plus exaspérantes, en fait, parce que, genre, oui, OK, maintenant, on est couvert de graines paysannes et tout va bien et on est dans le cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Et, enfin...
Oui, c'est vrai, mais du coup, je suis d'accord avec toi, mais le premier truc que je me suis dit, c'est sur le premier, la révolution sexuelle avec les cours d'éducation sexuelle. En fait, c'est un programme politique, quoi. C'est plus qu'une fiction. Je suis d'accord avec toi, mais c'est plus parlant et concret, mais c'est plus une fiction, du coup. Enfin, je vois pas en quoi c'est une utopie.
Oui, c'est plus ça, beaucoup plus fou.
Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Mais.
sans vouloir spoiler, j'ai l'impression que du coup, peut-être. En fait, parce que. De base, quand on préparait l'émission, j'ai réalisé que ça ne me parlait pas du tout, les utopies, et le principe même d'utopie. Et qu'en fait, peut-être justement, pour rebondir sur ça, une utopie, ça serait juste un programme politique d'une...
Mais en vrai, peut-être.
Mais du coup, ces quelques exemples ne te réconcilient pas complètement avec le concept d'utopie, là.
Pas trop, non.
Non, en effet.
Mais heureusement que les langues de Fronde s'occupent de tout. On va vous proposer un premier petit micro-trottoir de plein de meufs super cool qui ont, elles, réfléchi à une utopie, ou en tout cas un type d'utopie. Et si les mecs 6-7 disparaissaient ?
Si demain, il n'y a plus de mecs 6-7, qu'est-ce que vous faites ? Comment se passe votre journée de demain ? Qu'est-ce que vous faites ?
Moi, je me balade la nuit, en fait, jusqu'à 5h, tranquillou, avec mes écouteurs. Vraiment, c'est... Ouais.
Moi, je me balade sans me décaler sur le trottoir.
Ouais, tu pars, tu fais du stop.
Moi, je pense que je ferais un voyage dans une région où normalement je ne vais pas.
Ouais.
Et je vais seul.
Et tu vas
seul.
Je fais la rando toute seule.
Ouais, genre des trucs un peu que tu fais pas en tant que meuf, quoi.
Non. Bah, ou en tout cas que tu fais mais que t'es obligé de prendre des risques, quoi.
Okay, donc plutôt de la gambade, quoi, quand même.
Ouais. Ouais.
Urbaine ou rurale, mais
ouais.
Ça vous donne envie de marcher, quoi.
Ouais.
Mais une seule journée, c'est...
À partir
c'est
de demain. Dur.
À partir de demain.
Pour... Jour 1, balade.
Ouais, ouais.
Énorme teuf.
Jour 1, soir, énorme teuf.
Genre, tu peux boire et prendre de l'alcool sans risquer de te faire violer, par exemple.
Ouais. Tu laisses ton verre et tu vas...
Tu laisses ton verre et quoi.
Trop bien.
Abandonner. Jour 2.
Après, je sais pas, t'organises des conférences où genre les gens parlent pour dire des choses utiles, coupe pas la parole.
Tu finis tes phrases.
Ça peut être sympa comme expérience aussi.
Jour 2, on se raconte ce qu'on sait.
Moi, je crois que je réouvre mes réseaux sociaux de manière plus. Je remets les pieds sur Twitter, je remets les pieds sur des trucs.
L'équivalent du décolleté mais numérique.
Ouais, c'est ça, ouais.
Regarde son truc. Hein.
Bah, je pense que l'état général du monde, ça va être pas mal. S'il n'y a plus de mecs, tout ce qui est politique, guerre, économie, climat, Ouais, voilà les potentiels.
C'est vrai qu'on n'avait pas dit s'ils avaient genre juste disparu, genre ils se sont évaporés. On a pas arrivé tous à un endroit.
Ah, moi j'ai mon genre,
dans l'océan.
Ah oui, parce que ils reviennent plus jamais.
Oui, ils reviennent plus jamais, je pense.
Ok. Ah, à ce moment-là, je crée une géante coloc avec toutes mes potes meufs. Qui, voilà, genre vraiment la maison du bonheur entre meufs, quoi. Et je vis avec mes potes au lieu d'avoir chacune son appart avec son mec, quoi. Mmh.
Ouais. Alors que s'ils reviennent, tu fais pas ça?
Ouais, c'est triste.
Ah, bah si, moi je suis pour.
Oui, mais c'est triste quand même.
Je suis pour, mais c'est, je sais pas si mes copines seraient.
Oui, c'est pas le modèle standard.
C'est pas le modèle standard.
Ouais. Oui. Non, c'est sûr, s'ils reviennent plus jamais, ça veut dire qu'en gros, nos copines hétéro, bon bah, elles sont tristes un petit temps. Mais après, bah, ça passe.
Elle s'adapte.
Il y a plus de chef d'État du tout, quasiment. Il y a encore moins de papes.
Pas de papes, plus de papes.
La conclave vide.
Voilà.
Ouais, je profite du temps libéré par le fait de soigner tous mes problèmes de santé mentale causés par les hommes par des projets artistiques et sportifs, par exemple.
J'avoue, le sport.
Ah ouais.
Le sport.
Ah, moi je pense pas du sport.
Ah ouais. Ouf.
Sur les terrains publics qui sont près de chez moi, j'ose jamais faire du sport.
Dans les cities, ouais.
De l'art, genre, tu peux aller regarder un film sans qu'on mette après et t'explique le film.
Ouais.
Ça va être.
Puis même les films, à terme, les films changent. Du coup, il n'y a plus de films faits par des mecs.
Ouais.
Tu t'épargnes toutes les fins de films avec la romance hétérosexuelle nulle et sortie de nulle part.
Ouais.
C'est fini. Okay. Est-ce que vous changez au-delà des vêtements, est-ce que vous changez vos apparences physiques, genre, est-ce que vous arrêtez de vous épiler, est-ce que vous arrêtez de vous maquiller, est-ce que vous arrêtez de faire les ongles et tout?
Moi, je pense que c'est, je pousse le truc de l'autre côté, genre je me maquille beaucoup plus, je mets beaucoup plus comme à mes ongles. Je m'habille beaucoup plus comme je veux, etc. Ouais. Au contraire.
Tu mets des paillettes partout.
Ouais.
Trop bizarre. Ça.
Trop bien ton maquillage papillon.
Mais oui.
Moi, je pense que je m'habille beaucoup plus sexy.
Ah ouais.
Décolleté, ça part.
Ça part.
Ouais.
Ouais, là sera les femmes de droite. Hein.
Alors c'était un peu la question quand même, parce qu'il reste les racistes, les meufs de droite,
encore en fait. Par exemple, typiquement le gouvernement, il reste Laura Berger en fait.
Il reste Dati aussi.
Et Rachida Dati, toutes les deux. En plus, la plupart des meufs de droite ou de meufs sexistes, elles justifient souvent que en fait, si elles reproduisent des normes masculines, c'est parce que comme ça, genre elles sont en compétition avec eux, il le faut et tout. Donc là, elles pourront plus dire ça. Elles devront dire jamais droite de droite, ça, je le suis plus. Ma droite assume. Bah, ça donne envie.
Oh ouais, merci.
Bon, on s'occupe de ça. Allez.
Je commence, du coup, j'y vais. Moi, j'avais pas écouté j'ai pas fait mes devoirs, mais j'avais pas écouté cet extrait avant d'arriver. Et ce que je retiens, c'est les premiers passages où il y a beaucoup d'extraits sur le fait de faire des choses seules, de la rando seule, se balader seule dans la nuit, voyager seule. Et moi, c'est vrai que, enfin, pour le coup, j'adorerais aller en Inde, mais je pense qu'y aller solo, c'est pas une excellente idée. Enfin, j'aimerais bien aller à New Delhi et tout, mais je sais pas, j'ai un peu flippé, quoi. Et j'imagine qu'il y a plein de gens comme ça, enfin, ce qu'elles ont dit aussi, et voilà, donc ça, c'est le truc qui m'a fait réagir. Voilà.
La solitude.
La solitude, ouais.
Et après, du coup, un deuxième point, moi, c'est plutôt sur des trucs, mais après, du coup, donc, qui est commenté directement dans l'extrait. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, en fait, qui, globalement, en même temps, je rejoins totalement cette manière de penser. Je pense que j'ai clairement pas de meilleure idée si on me posait cette question. Mais en fait, il y a plein d'activités où c'est un peu comme les trucs de faire des trucs tout seul, des trucs qu'on peut déjà faire en ce moment. Par exemple, faire une grande coloc entre potes et pas habiter avec son mec, et même ne pas avoir de mec, c'est des choses qui se pratiquent. Mais il y a quand même, ça rappelle le fait que c'est quand même plus considéré comme marginal comme choix ou pas forcément évident pour plein de différentes manières. Mais on n'a pas besoin de supprimer tous les mecs techniquement pour pour arriver à cette fin.
Mais ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que par ailleurs, on n'en a vraiment pas encore les moyens logistiques. Donc
Donne-moi 2 minutes.
On est encore un petit collectif radio, on a les moyens qu'on a. Mais au contraire, moi, je trouvais que ces micro-trottoirs, et il y en a un deuxième dans le même style quand t'écoutais après, que j'espérais que ça te réconcilierait un peu avec l'exercice de l'utopie, vous qui, pour les anti-utopistes et les anti-fictions, c'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est de dire, je vous propose un scénario vraiment excessif, exagéré et impossible, et en fait, les personnes répondent des trucs complètement proches du réel, des trucs qu'elles peuvent déjà faire, quoi. Donc du coup, après, t'as plus qu'à leur dire, alors, mon scénario était fictif, mais ça, ce qui tombe bien, c'est que tu n'as pas besoin de ce scénario pour aller genre faire de la rando. Genre, ça ouvre des petites portes mentales de... Alors après, on m'a aussi beaucoup... Là, on a fait des extraits choisis, mais on m'a aussi beaucoup contesté mon scénario.
Ah oui.
Donc avec des espèces de... Tout le monde a voulu jouer à... Oui, mais alors comment ça se passe? Est-ce qu'ils disparaissent ou est-ce qu'ils sont juste isolés? Est-ce que ça compte les enfants? Mais alors les enfants en même temps, manani, manana. Donc j'ai censuré toutes les personnes qui avaient critiqué mon jeu. Voilà, il y a une autre personne qui m'a engueulée parce que il y a une autre personne qui m'a engueulée très fort parce que d'un point de vue marxiste, il est hors de question de pratiquer les utopies parce que l'histoire se fait par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes et que il n'est pas question de leur imposer des récits. Donc ça aussi j'ai censuré parce que voilà.
Mais pas Marx.
Mais du coup, ça donne finalement un montage assez court. C'est l'avantage.
Mais après, j'entends ton point, mais pour moi, justement, le fait que tu proposes... Donc, dans le mot utopie, il y a vraiment tout est possible. Allez-y, dites-moi ce que vous voulez. Et l'idée de... Enfin, que c'est dur, en fait, de réaliser à quel point c'est dur de rêver, genre, au-delà de notre réalité. Et, enfin, nos rêves, en fait, c'est des trucs qui sont faisables, quoi. Et je m'intègre totalement dedans, quoi. Mais c'est ça qui me... Peut-être... Je sais pas pourquoi me déprime autant, mais...
Parce que si on n'arrive pas à imaginer, même dans un cas comme ça de fiction totale, où en fait il n'y a pas de règles, on s'en fout, enfin, on peut imaginer un monde sans hommes, mais qu'en fait on n'y arrive pas la plupart du temps, on est vraiment enfermé de fou, quoi. Enfin, si une des premières réponses c'est j'arrêterai de me maquiller, l'utopie est courte, quoi.
Mais néanmoins accessible.
Ouais. Donc en fait c'est un peu positif, c'est vrai.
Pour faire encore un pas supplémentaire hors de la patriarcativité, peut-être qu'on peut s'écouter un deuxième petit bout de micro-trottoir.
Si demain il n'y a plus de mecs 6-7, vous vous réveillez et les mecs ont disparu.
Je pense que l'occupation de l'espace public et la manière dont je me comporte dans la rue sera complètement différente. Moi j'ai tendance à pas du tout regarder les gens, à plutôt regarder mes pieds, etc. Je pense que c'est un réflexe depuis... très petite en fait, de me dire je prends pas de risque, je regarde pas, comme ça il peut rien m'arriver. Et donc là je pense que sur l'espace public et notamment la nuit, je pense que ça changera complètement ma manière de me comporter quand je rentre. Si je rentre dans un transport en commun, quel qu'il soit, bus ou métro, je me poserai pas du tout la question de où je m'assois, alors que là je jette quand même toujours un petit coup d'œil.
Ouais. Sur l'occupation du terrain de footing,
mais... Ah ouais, on serait moins emmerdé.
Sérieux City. On serait moins emmerdé à essayer de virer des mecs 6-7 qui occupent nos terrains sur nos créneaux et où on doit gueuler à chaque fois qu'ils viennent et que c'est toujours la même bataille.
Moi je pense même que je ferais certains sports alors que pourtant du skate ou du basket. Genre le city à côté de chez moi, tu vois, il y a toujours 1000 gars. Je vais jamais y aller pour faire du basket alors qu'en fait... J'ai adoré le basket ado et j'en ai fait et j'adore ça. Et si c'était genre, si je pouvais aller au terrain de basket ou au terrain de foot et jouer avec mes copines, je serais tout le temps avec mes copines. Donc
je sais pas pourquoi je pense à terrain de basket, je pense à parc la nuit. Et je pense aussi que ça, se réapproprier la nature et les espaces tranquilles où il n'y a personne. Et pouvoir les approprier même la nuit, je trouve que c'est super important. Et ça, je pense qu'on s'empêche beaucoup, parce qu'à juste titre. Hein, mais...
Maintenant, là ?
Ouais, maintenant.
Je peux m'allonger dans un parc, tranquille, à lire un livre, sans avoir peur d'être emmerdée. Et je peux pisser dans la rue où je veux.
Un sentiment de sécurité de ouf. Genre, je fais tout ce que je veux faire, en fait. Mais en même temps, comme je suis encore hétéro, bah, je baisse plus. Ça, c'est quand même un problème.
Un petit temps de réapprentissage, peut-être.
Et là, genre, effectivement, il va falloir que j'accélère mon... Voilà, ma réflexion.
Une réorientation.
Et ça pourrait me déranger un peu au début. Après, je pourrais bien le faire toute seule aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Oh là.
Oui, mais est-ce qu'en même temps, il n'y aurait pas plus de gens qui s'appropriaient la rue si c'était moins masculin? Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi plus d'enfants, plus d'autres âges, des personnes plus âgées qui iraient dans les bars
Mais ça pourrait avoir des effets sur l'éducation des enfants.
Oui.
Et notamment des garçons. Et peut-être potentiellement permettre de produire une nouvelle génération d'hommes... On gagne confiance en son travail et en soi, je pense aussi, à terme. Parce que t'as beau avoir conscience que ton travail est légitimé par tes collègues masculins, malgré tout, ça rentre dans le crâne.
Ouais.
Malgré tout.
Et puis en termes de style, je pense, en termes de... Je sais pas, en termes vestimentaires, je pense qu'on s'éclaterait beaucoup plus. En termes de rigolade... Rigolade. C'est...
En termes de rigolade.
En termes de rigolade.
Est-ce que genre par exemple, est-ce que vous maquillerez plus ou vous maquillerez moins? Genre, ça changerait quoi votre style?
Moi, je me maquillerais plus et de façon plus. Moins conventionnelle, je pense. Je tenterais des choses plus funky. Beaucoup plus funky, parce que je pense que j'aurais moins peur d'être discréditée. Je m'attacherais moins les cheveux quand je dois faire des présentations, des choses comme ça. Je poserai pas la question de est-ce que c'est trop féminin, pas assez féminin, ce genre de choses.
Je suis jamais en jambes nues à Paris. Alors aussi parce que ça me dégoûte, parce que c'est trop pollué. Non mais je suis jamais en jambes nues à Paris et en fait je pourrais me balader pratiquement en slip sans stress. Et pour les journées où il fait chaud, ce serait plus pratique. Aujourd'hui j'ai crevé de chaud dans mon jean. Demain, c'est en culotte.
Peut-être libéré d'un poids quand même là. Hein.
Ouais, libéré d'un poids.
Ouais. Moi je me vêtirais plus femme, enfin plus de robe, de jupe et tout. J'hésiterais beaucoup moins. Enfin, c'est clair.
Tu mettrais tes magnifiques bottes à talons.
Ouais, grave. Plus de talons et tout. Enfin, oui. Au travail notamment, je me sentirais. Enfin, je me lâcherais, je pense, tu vois. Ouais. Peut-être aussi, ça m'inciterait peut-être à faire peut-être des activités qui sont étiquetées très masculines, viriles et tout, que j'ai tendance à rejeter, enfin qui me dégoûte un peu parce que c'est enrobé d'une culture hétéro-masculine et tout, enfin qui peut-être, enfin je sais, là j'ai pas d'exemple, j'ai pas du bricolage, non mais...
Ne plus être plagié dans son travail, c'est pas mal. Ouais, être cité par ses collègues.
Alors le problème pour les personnes qui travaillent sur les violences sexistes et sexuelles, c'est que c'est aussi le chômage.
J'ai pas eu lieu, je me suis dit non, retire là, ça là, parce que... Mais oui, j'ai pensé à ça.
Ça veut dire reconversion aussi.
Reconversion, ouais. Mais et vraisemblablement moins d'inégalités en tout genre aussi. Donc moins de conflits, moins de violences. Beaucoup de sérénité. Bah peut-être plus besoin de travailler. Parce que plus de ressorts pour ce moins de monde, on peut peut-être... Peut-être se débrouiller.
Je gagnerais beaucoup d'énergie à plus m'inquiéter pour ma petite sœur, pour ma plus petite sœur, pour ma copine qui rentre ça, d'envoyer le texto, t'es bien rentrée, elle a pas dit qu'elle était bien rentrée. Genre, tu vois, t'as pas de bourrée, enfin, genre, tu gagnes du temps juste à plus penser à ça, quoi.
Écologique serait bien, en tout cas, je pense. À mon avis, là,
l'air serait plus frais, je pense.
Ouais.
Le fond de l'air, même aussi.
Il n'y a pas de nazis aussi
de nazis.
Ce soir, non?
Moins de nazis.
Moins de nazis.
Ouais.
Beaucoup moins. Hein.
Beaucoup moins. Ouais.
Et en même temps, est-ce que la colère va pas un peu nous manquer? C'est-à-dire contre...
Où est-ce qu'elle va aller?
Ouais, contre qui et quoi on va se mettre en colère Est-ce que c'est pas beau aussi, parfois, de pouvoir... ensemble revendiquer quelque chose ou se mettre en colère contre quelque chose.
C'est pour ça qu'il restera les femmes de droite.
Eh bien, avant de revoir un petit moment de discussion pour voir ce qui nous a inspiré ou non et voir avec est-ce que notre avis sur les utopies a changé, on va faire une petite pause musicale avec Les filles, les meufs de Marguerite.
Thank you.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer. Et qui s'empêche de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
C'était donc les filles et meufs de Marguerite. Et on est toujours sur l'émission Langue de France.
Comment ça s'appelle cette émission?
Où est-ce qu'on est? On s'est perdu dans la Matrix. Et en parlant de la Matrix, là du coup on est en train de parler des utopies féministes ou des dystopies féministes. Ou est-ce que les utopies féministes ça existe? Et c'est vrai que comme on l'a dit au début, on a eu un peu plus de mal qu'on aurait pensé de base à trouver des utopies qui nous inspiraient. Donc on a déjà parlé d'utopies qui nous avaient un peu déçues ou dans lesquelles on ne s'était pas trop retrouvées. Et du coup, la question plus compliquée, c'est est-ce qu'il y a des utopies au final qui nous ont plu? Et moi, donc, j'ai déjà établi que les utopies en soi, ça ne me parlait pas trop. Mais du coup, quand je pense à utopie et du coup quelque chose qui me paraît un peu une situation rêvée, moi, j'ai surtout un personnage en fait qui est dans un film qui est pas du tout une utopie parce que c'est un film qui est en fait de base un film d'horreur qui est de John Carpenter et c'est un film qui s'appelle The Fog et du coup c'est l'histoire d'un brouillard maléfique qui tue tout sur son passage dans une petite ville sur la côte californienne, donc la côte pacifique. Et dans tout ce mélo genre absurde, mais qui est quand même très, très amusant, donc je vous le recommande, il y a un personnage qui finit par être un des personnages hyper badass et qui va sauver un peu l'affaire, qui est une femme qui habite, donc une mère qui habite seule avec son enfant. Et son job, c'est d'être... Donc elle tient une radio, la dernière radio de la commune, et qui est établie dans un phare. Donc il y a en fait tous les après-midi, parce qu'elle fait les soirées surtout, elle prend tous ses vinyles et elle va dans le phare. Et du coup, il y a ce phare qui est vraiment perché sur la côte pacifique avec une vue et genre incroyable. Et elle passe juste ses soirées à passer des vinyles. Et ensuite, elle a une petite amourette avec au Tokiwoki avec le mec qui fait les rapports de météorologiques. Et vraiment, du coup, tout le film, c'est ponctué par elle, donc tous les personnages qui écoutent sa chaîne de radio et sa voix qui est en mode genre, vous êtes toujours sur la radio, j'ai évidemment oublié. Et franchement, c'est ma vie rêvée.
Dans un monde apocalyptique.
Si je disparais un jour, je cherchais un phare qui émet une chaîne de radio. Donc voilà, donc ça c'est mon utopie, rien que d'en reparler, j'ai envie d'y aller.
Effectivement, c'est vraiment très tentant, on t'y voit très bien. C'est ta petite utopie à toi,
voilà,
au milieu du brouillard mortel, si j'ai bien compris.
Oui.
Oui.
Oui,
il faut qu'il y ait une menace.
J'espère
quand même.
Que ça finit bien ce film, pour cette personnage, mais ne nous en dis pas plus.
Mm. Et toi?
Eh ben, moi, un peu comme Asia, alors je suis moins fâchée avec les utopies, mais en fait, les utopies... ni fâchée, ni facho. Les utopies, moi, qui me parlent, c'est aussi, en fait, des dystopies, c'est-à-dire que, moi, mon point, c'est que, en fait, c'est pareil, puisque des dystopies féministes, et là, il y en a un peu plus... Comme elles sont obligées de raconter la résistance à cette société dystopique, elles racontent aussi une utopie dans la résistance. Sinon, si c'est juste la dystopie et qu'il n'y a pas de résistance, enfin, il ne faut pas écrire ça, c'est vraiment juste pour se faire du mal, quoi. Et du coup, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train à la fois de regarder un truc que tout le monde a vu, sauf moi, parce que c'est sorti en 2017 et qui s'appelle La Servante Écarlate, et de lire un livre qui s'appelle Viendra le temps du feu. Et en fait, c'est deux dystopies qui sont très similaires. Alors, je ne connais pas 250 littératures dystopiques, mais ces deux produits très différents racontent globalement la même histoire. Et du coup, je voulais juste genre, vous raconter les deux, parce qu'à mon avis, il y en a une qui est plus émancipatrice que l'autre. Et spoiler, c'est celle qui est éditée dans la collection sorcière de Cambourakis et pas disponible sur Netflix et sur vos plateformes. Du coup, c'est pas Netflix, La Servante Écarlate, c'est ça que tu voulais dire?
Bah oui, c'est un livre quand même de base.
Oui, de base.
Oui. Mais je veux dire, là, ce qui est connu, là, dans les métros, c'est genre...
Margaret, t'as fait mieux.
Oui. Donc du coup, bah, justement, donc, La Servante Écarlate, en anglais, c'est The Handmaid's Tale. C'est adapté d'un roman de Margaret Atwood qui date des années 80 quand même. Alors j'ai regardé rapidement Margaret Atwood, ça n'a pas l'air non plus d'être Rosa Luxembourg, mais elle est féministe, quoi. Voilà. Et donc l'histoire, c'est baisse de la natalité, enfin... catastrophe naturelle liée au changement climatique, baisse de la natalité et mise en place de servantes qui sont des femmes fertiles qui sont attribuées à des couples pour qu'elles portent leur enfant. Et donc, c'est une société entièrement, genre, et un peu évangéliste, entièrement organisée autour de la ritualisation du viol de ces femmes et un truc totalitaire classique. Quoi. Donc ça, c'est La Servante Écarlate. Et viendra Le Temps du Feu, qui est sorti 4 ans après, en 2021. Et qui m'a l'air, moi je me suis dit, cette Wendy Delorme qui est l'autrice, a vu La Servante Écarlate et s'est dit, je peux faire la même en mieux. Enfin vraiment, j'ai l'impression que c'est ça le projet. Et donc, c'est la version queer et vénère. Alors c'est plus dur à raconter parce que c'est un livre choral, mais en gros, je vais vous lire l'arrière du livre qui s'appelle Une quatrième de couverture. Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles existaient ensemble comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant. Et j'étais l'une d'entre elles. Une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes inspirée des guerrières de Monique Wittig. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. Une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui, un roman choral, poétique et incandescent, blablabla. Du coup, en gros, vraiment, c'est incroyable à quel point le socle commun est le même. C'est-à-dire, bon, il y a un problème de catastrophe naturelle. Il y a, du coup, politique nataliste, fermeture des frontières, contrôle du corps des femmes, contrôle des esprits, surveillance, enfermement, violence, tout le petit totim. Les effets sur les personnages qu'on suit sont aussi très proches. Il y a carrément des scènes similaires, genre le fait de sentir son imagination décliner, le fait de plus oser regarder les autres dans les yeux, enfin, des effets, en fait, de société totalitaire et tout. Et en fait, l'intérêt deviendra Le Temps du Feu, au-delà du fait que c'est plus poétique, c'est plus proche de nous, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on connaît, il y a Greta Thunberg, il y a Paul Preciado, donc c'est quand même plus facile à se projeter. La Servante Écarlate, c'est quand même un peu genre... imaginez, il y a un coup d'État évangéliste, bon après...
Oui. Bah ouais, ok, vas-y, continue.
Par ailleurs, il y a un personnage qui est le sosie de J.D. Vance, qui vraiment n'aide pas, qui est donc un ami de Donald Trump. Et donc, l'intérêt, selon moi, deviendra Le Temps du Feu, au-delà du fait que c'est queer, que c'est plus vénère, et qu'il n'y a pas cette obsession bizarre pour l'affiliation qu'il y a dans Margaret Atwood, c'est que ça va plus loin que notre réel à nous. C'est-à-dire qu'en fait, la servante écarlate, quand tu regardes, tout ce que tu lui souhaites à cette meuf, c'est qu'elle revienne à 2025, à son petit mec, sa maison, et en fait, tu lui souhaites vraiment de tout son cœur. Alors que là, la résistance qui est proposée, c'est plus loin que notre nous, et donc du coup, c'est quand même plus excitant. La résistance, elle vient en creusant une montagne avec tes sœurs, etc., machin. Voilà pour deux dystopies qui m'ont fait kiffer, qui sont aussi vraiment badantes. Baden, on dit chez moi.
Je pense que tu as tué la technique avec ta blague. Mais du coup, de manière assez prophétique, il y a un an et demi, en fait, on avait fait une petite fiction radiophonique et qui répondait un peu à la question, mais qu'est-ce qui se passait si tous les mecs 6-7 disparaissaient du jour au lendemain. C'est du coup ce qu'on vous propose maintenant, et peut-être qu'on en parlera après. Donc c'est
peut-être
une œuvre qu'on a tentativement appelée le grand chamboultou ou grand chamboulement, et qu'on vous laisse apprécier.
Bonne chance.
Bonjour à tous en ce jour 1 de ce moment très très spécial. On s'était déjà posé la question maintes fois de où sont les femmes, mais il semble aujourd'hui qu'il est temps de s'en poser une autre, où sont les hommes?
Non mais Sacha...
Ben quoi, je lance l'émission, non?
Non mais on va pas littéralement refaire une matinale genre aussi cliché que les précédentes, ce qui est un peu l'occasion de se réinventer là. On n'est pas obligé de monter les émissions genre nanani nanana, on prend les ondes, c'est tout. Déjà tu peux parler directement, t'es pas obligé de prendre un ton d'école de journalisme...
Ah ouais, ouais, non, mais ok, bah vas-y alors.
Bon, du coup, il y a probablement nombre d'entre vous qui l'ont déjà remarqué, mais il y a beaucoup de mecs qui ont disparu depuis hier. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, et on n'a pas encore trop bien compris pourquoi, mais en tout cas, ils sont plus là, et ça c'est clair et net. Peut-être qu'on se présente, Sacha ?
Ouais, ok, du coup, moi c'est Sacha, et en fait, de base, je suis stagiaire depuis quelques mois ici à France Inter, et en arrivant ce matin, bah c'est clair qu'on n'était vraiment pas beaucoup. Bon, au fur et à mesure, il y a quelques meufs qui ont commencé à donner des nouvelles et qui étaient d'ailleurs en complète panique parce qu'en fait, leur mec avait disparu. Et au fur et à mesure, on sentait que la matinale allait pas se faire, il manquait beaucoup trop de monde et personne n'occupait les ondes. Du coup, avec Rosa qui est ici avec moi, on a décidé de le faire. On a appelé les copains et puis plus le temps passait, plus on a compris l'ampleur du truc, quoi.
Ouais, surtout qu'en plus, c'est plus complexe que ça, quoi. De ce qu'on comprend, des infos qu'on a pour l'instant, ce serait en fait que les mecs cis-hétéros qui auraient disparu. Bon, c'est un peu à creuser, hein, on est un peu au début de tout ça. Bref, depuis aujourd'hui, donc là il est quoi, midi et demi, on a déclaré l'occupation des locaux de France Inter. Parce qu'on s'est dit que dans une telle situation, il fallait mieux créer dès le départ une source de médias ouverte et collective, de laquelle on puisse communiquer librement. Je sais que tout est encore très frais, il y a aussi plein de personnes qui sont carrément tristes. On a dû carrément faire une salle de deuil et de panique pour toutes les meufs dont le mec avait disparu ce matin. Mais c'est aussi quand même un peu l'occasion de positiver, de réimaginer la manière dont on peut s'organiser... au niveau du taf, mais bon, je sais pas, même en fait dans le reste de nos vies, quoi. Voilà, bon, c'est encore, on vous tient au courant. À plus, non?
Ouais, bon courage à tous en tout cas, et à faire la suivre.
Salut!
Salut!
Salut Sacha!
Salut tout le monde! Bon, du coup, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant qu'on vit le grand chamboultou. Et on se disait que ça valait peut-être le coup de faire un peu le point sur ce qui nous a chamboulé, justement. Est-ce que ça a changé pour nous, cette disparition des mecs 6-7 du jour au lendemain?
Qui veut parler?
Moi, je veux bien raconter d'abord.
Ok.
Du coup, moi, je suis au collège et j'avoue que, en vrai, j'ai eu super peur au début. Même si, bon, moi, mon père, il nous avait déjà abandonnés avec ma mère, donc ça changeait pas trop pour nous. Mais par contre, c'est un peu la honte, mais je crois que c'est la première semaine de ma vie où je kiffe trop aller au collège, en fait. En fait, en cours, on apprend trop de trucs trop stylés, et on avance trop vite, et il y a plus, genre, les relous, et les grandes gueules, et les frimeurs dans la classe, et dans la cour aussi. En fait, on se marre trop avec mes copines, et on joue sur le terrain tout le temps. Genre, t'imagines, il y avait même des meufs, elles avaient jamais joué au foot, genre, de toute leur vie.
Ah bah d'ailleurs, moi je fais du foot, et depuis ce grand chamboulement, ça n'a rien à voir. Déjà, les entraînements de foot, je me suis jamais sentie aussi bien pendant ces entraînements. On a enfin les terrains, rien que pour nous. Et on n'a plus besoin de répéter mille fois des relous de sortir et d'arrêter de squatter. Et d'ailleurs, quand on le faisait, on se faisait toujours insulter. Et donc, ces insultes, c'est fini.
Mais oui.
Plus besoin de se justifier aussi pour avoir une légitimité, avoir des créneaux, on n'est plus là, à dire s'il vous plaît, on peut avoir un terrain, comme si, genre, on n'avait pas le droit au terrain. C'est fini tout ça. Je sais même plus pourquoi, mais une fois, j'ai fait l'erreur de jouer en mixte. Et quand je jouais avec des mecs 6-7, j'avais jamais la balle, ils faisaient jamais la passe, c'était insupportable. Et tout ça, c'est ciao bye bye. Ces questions, on se les pose plus. C'est fini les garçons de 10 ans qui expliquent avoir gagné parce qu'il n'y avait pas de filles dans leur équipe. C'est juste du kiff. Juste du kiff.
Mais
vraiment
oui.
Que du kiff.
Et l'autre kiff, moi je trouve, c'est quand je rentre de l'école en vélo et en fait je peux prendre les pistes cyclables et il n'y a pas genre, avant il y avait toujours des vieux mecs, ils se dépassaient au feu pour me bloquer et juste pour pouvoir me bloquer ensuite ou me dépasser. Et ça, il n'y a plus du tout et j'avoue que c'est trop bien ça aussi.
Ok, on peut rester concentré encore quelques instants. On aurait dû commencer par ça quand même. Mais il faut faire un point logistique. 1, 2, 3. Logistique.
Logistique. Il faut faire un point logistique.
Ouais, hein.
Logistique.
Sacha.
Ouais, ouais, merci. Bon, alors, on essaye de faire vite, promis. Alors, du coup, bah, évidemment, depuis la disparition des mecs 6-7, le gouvernement national tel qu'on le connaissait, et bah, il a explosé. Du coup, c'est vraiment à l'échelle locale que se sont faites les réorganisations, donc avec la fondation de communes un peu partout à travers le pays. Bon, enfin, je dis pays, mais façon de parler, parce que évidemment, on a aboli les frontières.
Bravo !
Et bah voilà, bah, Rosa, je te laisse prendre la suite.
Ah pardon, je t'écoutais pas. Alors, si, je déconne. D'après les infos qu'on a de nos correspondants correspondantes, à l'échelle locale, dans la commune de Grenoble, la force et l'ancienneté des collectifs féministes en ont fait un haut lieu de l'auto-organisation et de l'autogestion. Il y a eu aussi la fondation de la République autonome de Bretagne, bon ça on le voyait un peu venir. C'est la fin de l'imposition par l'État des grands projets énergétiques destructeurs, évidemment. Et dans la commune de Lyon, c'est la fin des FAF et des restos de Bourges, ça c'est toujours une bonne nouvelle quand même, force lyonnaise. Voilà les nouvelles qu'on a. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres, mais là j'avoue j'ai un peu la flemme. On peut
aller
voir.
Ouais.
Ok. Allez, bisous. Salut l'antenne. Attends, je vais me chercher à boire. J'ai plus l'âge de danser comme ça, moi.
Attends, Thelma, je viens avec toi. Ouais, c'est cool comme soirée, non ? Il y a un monde !
Bah normal, quand même, c'est le premier anniversaire du grand chamboulement, tout le monde veut fêter ça ! Et puis bon, faire la fête, hein, ça a bien changé quand même comme activité.
Ah ouais, tu trouves ? Moi je sais pas, j'ai toujours fait la fête qu'avec des meufs au final.
Ah ouais, ok. Bah moi quand j'y repense, ça me paraît tellement absurde, mais genre surréel les soirées que je passais. Je passais déjà des soirées en boîte. À tenter désespérément de repousser des mecs suants qui me collaient au cul, à me saper des heures avant. Avec des fringues que je détestais, je pensais que ça allait plaire, mais...
Ah en fait, Emma, pardon, je t'interromps 2 secondes, tu m'avais pas dit que vous étiez ta petite amie, mais bravo
Bah non, pas bravo en fait, enfin, croire qu'on possède une personne parce qu'on l'aime et qu'elle nous aime, c'était avant le grand chamboulement. On a quand même pas passé toutes ces heures d'âge et des rues à repenser collectivement les questions de sexualité, de reproduction et de relations affectives pour finir par revenir à des vieilles rengaines d'appropriation des autres, non? Des os.
Oh.
J'ai plombé l'ambiance. Mais voilà quoi.
Non mais c'est vrai Corinne, Thelma a raison. Bon allez viens, on va danser.
Dis Rosa. Tu regrettes toi parfois?
De quoi?
Oh bah je sais pas, ce qu'on a décidé il y a quelques années, là, cette histoire du vote de la fin de l'histoire.
Non. Au contraire, moi j'avais trouvé ça très libérateur. Je trouvais que choisir collectivement de mettre fin à nos activités reproductives, progressivement à la fin de l'humanité, non, j'avais trouvé ça bien. Tu sais, petite, bah, tu t'en souviens, au début du siècle, j'étais tellement inquiète du dérèglement climatique, de ce qu'on faisait à la planète, que de me dire que je finis ma vie très âgée, après avoir pu renverser la tendance, mettre fin à la destruction de la nature par l'humain, et en plus choisir de laisser la planète continuer sa vie sans nous, non, franchement, pas de regret, hein. Et puis tu sais, j'ai été très très heureuse de vivre une longue vie. Et je suis très heureuse de finir ma vie comme ça, vieille, avec vous. Pas toi?
Si, t'as raison, t'es mignonne d'ailleurs.
Hé hey,
quoi?
Venez boire l'apéro!
La quoi?
L'apéro!
Allez viens, on y va.
Elle a dit apéro?
Oui, y a pas de pisse, allez.
On arrive!
Ouais.
It's raining men. Hallelujah.
Voilà, en plateau avec les langues de fronde. On vient d'écouter cette tentative de fiction qui nous a fait rire à la réécoute, ouais, mais beaucoup. Pas que, différentes émotions qui ont été évoquées.
Et qui sont analysées.
Qu'on va maintenant analyser. Parce qu'en fait, c'était nous. Voilà, c'est le moment où on révèle que malgré tout ce jeu d'acteurs, c'est nous qui c'était nos voix.
Et moi, je n'avais pas entendu cette fiction avant ce soir, donc
c'est
je la découvre.
Hein.
C'est saisissant. Comme vous, auditeuristes, vraiment, je découvre. J'imagine que vous êtes sur le cul, je pense qu'on peut dire ça. Moi, j'ai deux questions pour vous. Premièrement, qui est cette collégienne? Et deuxièmement, pourquoi une Anglaise qui déboule comme ça? Tu trouves? J'ai adoré.
Pourquoi une Anglaise?
Bah alors déjà elle est américaine.
Ah pardon. Merci je sais que c'était plus proche l'Angleterre, tu vois.
Bah non non
si
non.
Dit, si c'est en France d'ailleurs.
Et j'avoue que j'ai invoqué un peu toutes les. j'ai un parent qui est à moitié américain et donc j'ai invoqué les esprits de certains adultes que j'ai fréquentés.
Et pourquoi pas, c'est vrai.
Donc pourquoi pas, il nous fallait. Et puis c'était un peu le motif de la correspondante étrangère, quoi, qui justement, grâce à l'abolition des frontières, a pu sortir des États-Unis.
Enfin
et...
pays. On a aboli voilà. Les pays, si tu vois ce que je veux dire.
Voilà, wink, on wink. S'entend. Donc voilà, pour la première question.
Peut-être okay. Même, je pense que de manière un peu, tu vois, making of, un peu secret de tournage.
Ah oui, je veux.
Peut-être que comme on avait décidé de faire 19 personnages et qu'on était deux, les accents, c'était aussi une manière de diversifier.
Bien sûr.
De vous faire
et
entendre
et
un panel.
Et c'est très malin ce twist, puisque ça marche vraiment. Moi, j'y ai vu que du feu. c'est la petite enfant.
La petite enfant, écoute, c'est... on ne peut pas révéler son identité, mais elle nous a offert ce témoignage et on l'a trouvé saisissant.
Ça, c'est vrai.
Saisissant. Bravo les collégiennes.
Qu'elles disent frimeur alors qu'elle
ouais.
est collégienne, ça c'est fort.
C'est louche,
ouais.
Fort.
Oui, ouais. C'est louche. Que... Après, pourquoi pas.
En 2030, les infos auront bien changé. Donc...
Nous l'avons pensé comme un crescendo. Et je crois que c'est ça que ça a été. Cette émission vous a offert oui. à boire et à manger en termes d'imaginaire et d'alternatives féministes. Mais maintenant, on vous laisse le soin de trier tout ça et de choisir ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu. On salue toutes les personnes qui ont eu des bonnes idées, qui nous ont envoyé leurs petites voix, toutes les collégiennes.
Toutes les américaines toutes aussi, les manifestement.
Toutes les footballeuses.
Voilà, les lesbiennes trentenaires qui chantent sur Give Me a Man et Training Man sur la piste de danse.
Les gens à Baden-Baden.
Voilà. les villes thermales. Et on s'embrasse. Enfin non, on vous embrasse.
Et on salue la technique.
Et oui, la technique, bien sûr.
Un super boulot.
Une petite musique pour se quitter.
Une musique
vous n'en
qui...
croirez pas vos oreilles. Une voilà. excellente chanson.